Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 27 septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia est avec moi en studio ce matin, Timothée Donangmaï, pour le premier débat télévisé de la présidentielle de novembre entre la candidate démocrate Hillary Clinton et le candidat républicain Donald Trump. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
At least I have a plan to fight ISIS.
No, no, you're telling the enemy everything you want to do.
Donc, le premier débat entre la candidate démocrate Hillary Clinton et son adversaire républicain Donald Trump a eu lieu hier soir à l'université Hofstra de New York. Un débat historique entre la première femme investie par un des partis majeurs et un homme d'affaires qui, Tim, a fait de son coup d'essai en politique un coup de maître.
Tout à fait, Idrissa. Et à quelques 6 semaines de la présidentielle du 8 novembre, les deux principaux candidats, pratiquement au coude à coude, ont saisi l'occasion pour tenter de rallier les indécis à leur cause. Le débat a démarré sur les chapeaux de roue avec une question sur ce qu'il convient de faire de l'économie américaine. Pour Mme Clinton, il faut bâtir une économie qui bénéficie à tout le monde et non à ceux d'en haut uniquement. Avec de nouveaux et bons emplois dans les infrastructures, la manufacture et la technologie de pointe, entre autres. Le candidat républicain, lui, a dénoncé la fuite des emplois américains qui, selon lui, vont au Mexique et dans d'autres pays. Donald Trump s'en est pris à la Chine, qu'il accuse de dévaluer sa monnaie pour se donner l'avantage. Et il n'y a personne au sein de notre gouvernement pour les combattre, a-t-il lancé, assurant avoir un très bon plan de lutte, un plan victorieux.
La question de la transparence et donc du degré de confiance ou de méfiance qu'inspire chaque candidat a été abordée durant la discussion sur la feuille d'impôt de Donald Trump, Timothée.
Et oui, Idrissa, et cette feuille d'impôt n'a toujours pas été rendue publique pour cause d'audit et aussi pour au moins une raison liée à Mme Clinton, soutient le candidat républicain.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted.
Je publierai ma feuille d'impôt lorsqu'elle publiera ses 33 000 emails qui ont été effacés, a dit Donald Trump, une allusion à la controverse suscitée par l'utilisation par Mme Clinton d'un serveur privé pour ses communications du temps où elle était secrétaire d'État et duquel des milliers d'emails ont été effacés. Après enquête, le FBI avait conclu à la négligence, mais n'avait pas recommandé de poursuite criminelle dans cette affaire. Pour sa part, Mme Clinton a dit avoir sa petite idée sur les raisons pour lesquelles le candidat républicain ne veut pas publier sa feuille d'impôt.
First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third,
peut-être qu'il n'est pas aussi riche ou aussi charitable qu'il le prétend, a dit Mme Clinton, ajoutant qu'une bonne part des affaires de Donald Trump n'est pas connue. Peut-être qu'il ne veut pas que les Américains sachent qu'en utilisant des techniques de comptabilité, il ne paie pratiquement pas d'impôt fédéral, a ajouté Mme Clinton. Au plan de la politique étrangère, les deux candidats ont longuement débattu sur la guerre en Irak, la situation en Libye, l'accord nucléaire iranien, la lutte contre le groupe État islamique. Donald Trump a accusé l'administration Obama de ne rien faire face aux agissements de la Corée du Nord. Il a aussi dit ce qu'il pense de l'OTAN.
I haven't given lots of thought to NATO, but two things. Number one, the 28 countries of NATO, many of them aren't paying their fair share. Number two, and that bothers me.
J'ai beaucoup réfléchi au sujet de l'OTAN, a affirmé Donald Trump, qui dit être parvenu à deux conclusions. Les 28 pays de l'OTAN ne paient pas leur part du fardeau, alors qu'ils devraient payer les États-Unis qui les défendent. En plus, l'OTAN pourrait devenir obsolète du fait de ne pas se concentrer sur le terrorisme, a averti le candidat républicain. La réaction démocrate de la démocrate Hillary Clinton a été immédiate.
We're working with NATO, the longest military alliance in the history of the world, to really turn our attention.
Nous travaillons avec l'OTAN, la plus ancienne alliance militaire au monde, pour porter notre attention sur le terrorisme, a-t-elle dit, évoquant les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, qui sont des pays musulmans. Madame Clinton a accusé Donald Trump d'avoir insulté les musulmans ici aux États-Unis comme à l'extérieur, suscitant l'inquiétude des pays alliés. Un sondage Idrissa de CNN auprès des téléspectateurs ayant regardé le débat révèle que 67% affirme que Mme Clinton l'a gagné contre 27% qui donne l'avantage à Donald Trump.
Eh bien, merci Timothée. Vous avez aussi recueilli la réaction de l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le républicain Herman Cohen.
Tous les deux se sont bien défendus, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de fautes, mais en général, je crois que peut-être Mme Clinton avait terminé avec un avantage sur Trump.
On disait du candidat républicain qu'il ne maîtrisait pas tellement les dossiers. Qu'en a-t-il été ce soir?
Sans doute, il a réfléchi sur les dossiers. Il a parlé bien sur les questions de l'État islamique. Il a parlé sur les questions nucléaires, il a parlé sur les sujets de commerce extérieur. Peut-être qu'il n'a pas totalement maîtrisé, mais il a beaucoup appris depuis quelques semaines.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le candidat Trump a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était aux primaires?
Surtout dans le comportement pour le débat. Il était beaucoup moins vulgaire. Il n'était pas vulgaire, il n'était pas arrogant. Pendant la primaire, c'était toujours moi. Regardez-moi, moi je suis bien, je suis grand. Il était beaucoup moins excité, il était calme, etc. Donc, il a beaucoup évolué. Mais sur la substance, sur les dossiers, je crois que Mme Clinton montrait qu'elle était beaucoup plus avancée dans la connaissance des dossiers, dans toutes les nuances, etc.
Vous avez dit que Mme Clinton repart avec quelques points de ce débat. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur l'électorat, selon vous?
Je crois que Mme Clinton a besoin surtout de prendre les votes de M. Sanders. Vous vous rappelez que dans la primaire, c'était M. Bernie Sanders contre elle. Et Sanders a gagné sur les jeunes, les gens entre 18 ans et 35. Le défi pour Mme Clinton maintenant, c'est de reprendre ces jeunes qui sont très réticents. Ils n'ont pas l'air d'aimer Mme Clinton. Et je crois qu'avec ce débat, elle a commencé à regagner ces jeunes.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Autre réaction, celle du professeur démocrate Edgar Cooley de l'Université de Monterey en Californie, que j'ai contacté peu après la fin du débat.
Les premières impressions, c'est que les candidats sont restés fidèles à leur style ou, si vous voulez, à leur message depuis le début de cette campagne. Et vous avez donc Mme Clinton qui, comme d'habitude, est posée, qui connaît les dossiers, s'exprime clairement avec beaucoup de détails. Et par contraste, vous avez M. Trump qui parle en termes généraux, sans vraiment donner de détails sur ce qu'il veut faire, et toujours avec cette même idée de peindre le pays comme étant au bord du gouffre, tout est négatif.
Pensez-vous que ce débat va changer quoi que ce soit à la donne, dans la mesure où la course est très serrée?
La course est très serrée, mais j'ai eu l'impression que M. Trump ne s'intéressait pas beaucoup à ceux qui ne sont pas déjà de son côté. J'ai eu l'impression qu'il s'adressait directement à ceux qui vont probablement voter pour lui, donc il a voulu les conforter dans leurs sentiments sur sa candidature. Par contre, Mme Clinton, je ne sais pas si cela va beaucoup changer. Comme d'habitude, elle a parlé froidement, sans beaucoup d'émotion. Et donc, c'est peut-être cela qui manquait un peu de son côté, essayer de montrer un côté beaucoup plus humain pour les électeurs qui sont un peu hésitants. Mais je pense sincèrement que M. Trump, son message, ou du moins son objectif, c'était de s'adresser directement à cette base qui a voté pour lui depuis les primaires.
La dernière réaction de ce matin est celle de Leonard Van Chekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université Princeton dans l'État du New Jersey.
Clairement, Madame Hillary Clinton a gagné le débat. Vers la fin, Donald Trump s'est effondré, quoi, tout simplement.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça spécifiquement?
D'abord parce que du point de vue de la clarté, du point de vue de la précision, de la logique dans les idées, du point de vue également de l'attitude, quoi, c'est-à-dire de l'attitude sur le plateau.
Pensez-vous que ce débat va changer quelque chose à la
donne? Je crois. D'abord, deux choses. Premièrement, ce que ça devrait changer, c'est que les personnes qui hésitaient, là, vont encore douter davantage de Trump. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Les gens qui ne sont pas totalement dans le camp de Clinton et qui bougeaient vers Johnson et puis Stein, la candidate verte et le candidat donc libertarian candidate, ce qui pourrait se passer, c'est que ceux-là vont voir l'enjeu et ils vont peut-être basculer quelque peu. Mais évidemment, il faut rester très 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 prudent parce que c'est clair, il y a des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps, donc qui dans d'autres élections auraient coulé complètement la campagne de Trump, ça ne l'a pas fait. Mais je douterais quand même qu'il puisse sortir grandi de ce débat.
Le professeur Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université Princeton, dans l'état du New Jersey.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En bref, le reste de l'actualité, le président gabonais Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat aujourd'hui, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle.
Au Niger, les enseignants des universités publiques ont reconduit lundi une nouvelle grève d'une semaine. Ils continuent d'exiger le paiement d'arriérés de salaire.
La Somalie a annoncé hier qu'elle avait reporté à nouveau ses élections d'octobre à novembre en raison de problèmes administratifs et de sécurité. Lundi, les autorités électorales ont annoncé un nouveau report. Les législatives se tiendront entre le 23 octobre et le 10 novembre et la présidentielle au plus tard, le 30 novembre. Le président actuel, Hassan Cheikh Mohamud, a commencé à faire campagne pour obtenir un second mandat. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Suite au cambriolage des agences de la BCEAO, l'institution bancaire régionale exige 50 milliards de francs CFA de la Côte d'Ivoire en guise de remboursement, indique Financial Afrique. Une décision qui a fâché certains cadres, estimant que ce n'est pas aux contribuables de payer, alors que les braqueurs et pilleurs sont connus de tous, ont-ils dit. L'institution américaine de développement Overseas Private Investment Corporation a annoncé l'ouverture d'un bureau à Nairobi pour couvrir l'Afrique de l'Est. Active en Afrique depuis 1972, l'OPIC a investi près de 12 milliards de dollars dans 500 projets sur le continent et dispose de bureaux à Abidjan et Johannesburg. L'AGOA fête ses 16 ans avec le 15e sommet USA-Afrique ouvert lundi à Washington. Le thème de l'édition est « Maximiser l'AGOA maintenant tout en préparant l'avenir ». L'African Growth and Opportunity Act est un système de libre-échange ouvert à 40 pays du continent.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Ennui judiciaire pour Serge Aurier.
Le joueur ivoirien du Paris Saint-Germain a été condamné hier à 2 mois de prison ferme pour des violences lors d'une altercation le 30 mai dernier avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit. Le défenseur ivoirien de 23 ans a aussitôt fait appel de cette condamnation. Rappelons que cette condamnation n'a pas été assortie d'un mandat de dépôt à l'audience. Le joueur pourra donc disputer le prochain match du PSG. Ce sera demain en Ligue des Champions sur la pelouse du club bulgare de Ludogorets.
La Ligue des Champions en Europe ce mardi.
À suivre ce soir, Dortmund-Real Madrid. Au Borussia, les sourires s'affichent sur les visages avec les deux hommes en forme, les deux Africains, Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé. Au Real Madrid, c'est plus crispé. Zinedine Zidane a commis un crime de lèse-majesté en Liga. Il a sorti en cours de match Cristiano Ronaldo. Depuis, l'ambiance est un peu fraîche entre les deux hommes. Autre match, Sporting Lisbonne, Legia Varsovie, Monaco, Bayer Leverkusen, le CSKA Moscou contre Tottenham, Leicester, le champion anglais, accueille Porto, Copenhague contre Bruges et en l'absence de son buteur vedette Alexandre Lacazette, Lyon se déplace à Séville. Enfin, la Juve, depuis le départ de Pogba, doit se relancer à Zagreb face au Dynamo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia et Timothée Donangmaï, nous passons maintenant à nos dossiers du jour.
Au Gabon, Ali Bongo Ondimba sera investi aujourd'hui pour un deuxième septennat. L'investiture aura lieu au palais présidentiel, mais il n'y a aucune indication sur l'heure ni la liste des invités. On ne prête pas serment à la hussarde en cachette, a ironisé Jean-Gaspard Ntoutoumé Ayi, le porte-parole de Jinping, joint à Libreville par Idriss Fall.
C'est la presse qui nous apprend qu'Ali Bongo prêterait serment. Mais on n'est pas surpris, j'ai envie de dire. Il y a eu un coup d'état électoral au Gabon. La décision de la Cour constitutionnelle, la prestation de serment d'Ali Bongo, participe du même exercice de déni de démocratie dans notre pays. Donc nous ne sommes ni concernés, ni surpris par cela, parce que c'est ce que nous disions depuis le début.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
En temps opportun, nous dirons aux Gabonais ce que nous entendons faire. Mais nous n'entendons pas accepter ce fait accompli qui consiste au fond à braquer une élection, à nier le suffrage universel pour s'imposer au pouvoir par la force. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons pas.
Qu'est-ce que ça signifie? Des manifestations à nouveau ou bien?
Ça prendra plusieurs formes. En temps opportun, vous le saurez.
Ban Ki-moon a appelé à un dialogue large, tout comme Ali Bongo Ondimba. Vous répondez quoi?
Je demanderai à Ban Ki-moon de privilégier le suffrage universel et la démocratie. Ban Ki-moon n'est pas sans ignorer que la misère du monde est proportionnelle au déni de démocratie. Et que s'il veut encourager le déni de démocratie, alors qu'il nous invite à accepter qu'au Gabon, il y a eu un déni de démocratie et que nous devons nous y soumettre. Mais je ne pense pas que ce soit son intention. Je pense qu'il doit encourager et obliger les pays à devenir démocratiques. C'est ce que nous attendons des Nations Unies, qu'elles soient respectueuses de sa charte.
Est-ce qu'on peut dire que le Gabon va s'enfoncer dans une crise politique de longue durée alors?
Je pense que le Gabon est dans une crise probablement la plus grave de son histoire. Combien de temps y restera-t-elle? J'espère le moins longtemps possible. Mais nous ne pourrons pas en sortir en niant la démocratie, en niant le suffrage de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces conditions-là.
Est-ce que M. Ping se considère toujours le président élu, comme il l'a déjà répété 3 fois?
M. Ping considère que c'est à lui que les Gabonais ont accordé le maximum de suffrages lors de l'élection présidentielle le 27 août dernier. Et ce n'est pas que lui qui le considère.
Jean-Gaspard Ntoutoumé Ayi, le porte-parole de Jinping.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
La Cour pénale internationale donnera le verdict du procès d'Almadi Al-Faki, destructeur des mausolées et autres lieux de culte à Tombouctou. Les faits se sont passés lors de l'occupation djihadiste à Tombouctou. Pour bon nombre de Maliens, ce procès n'a pas de sens dans la mesure où les lieux de culte ont été reconstruits et puis les vrais auteurs des exactions sont aujourd'hui à Bamako où ils ne sont pas inquiétés, nous dit Kassim Traoré.
Almadi Al-Faki sera situé sur son sort à la Cour pénale internationale. Ce destructeur de mausolées et lieux de culte mérite une condamnation selon Django Koulibaly.
Cour mène actuellement 9 à 11 ans de prison. Bon, moi, je pense que ça, c'est une peine qui est trop courte pour un terroriste qui a fait d'énormes dégâts en détruisant des mausolées, des lieux de culture. Ça, c'est impardonnable. Il doit avoir une peine de mort.
Pour certains, Almadi Al-Faki n'est autre qu'un menu fritin, car les vrais auteurs des crimes au nord du Mali dorment aujourd'hui dans les hôtels à Bamako.
Et au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui sont à l'origine de tout ça, les responsables derrière qui il y avait le mandat d'arrêt international, c'est levé aujourd'hui. Mais la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur ça et courir derrière des gens qui ont détruit des choses. On peut réparer alors que des gens ont enlevé des vies. Mais on ne parle pas de... C'est pas juste. Il faut que ces responsables-là soient poursuivis, arrêtés et puis ils sont connus de tous. Et si la communauté internationale ne peut pas les pointer du doigt et les arrêter, nous on peut les faire. Qu'ils nous demandent.
Le procès de Al-Faki est une première dans l'histoire de la CPI, mais aussi ça peut être une leçon pour les autres aventuriers.
À l'instant, ce qu'on a appris à travers les suites d'informations, ils disent qu'ils courent entre 9 ans et 11 ans de prison ferme avec sursis. Pour moi, je ne suis pas du tout satisfait de cette peine. Je veux que ça soit une peine exemplaire pour que les suivants qui veulent tenter de l'aventure après, que ceci-là sache que vraiment il y a une justice internationale qui est là, qui veut juger des gens contre ces genre de crime.
Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel du Mali.
Il a dit des choses, moi, qui m'ont fait sourire. Et il a été instrumentalisé par Acme et par Ansar. Mais soyons sérieux, s'il n'épousait pas l'idéologique, il n'a pas fait que détruire. Il a coupé des mains et des pieds. Donc ça, c'est ridicule, quoi. C'est tout à fait ridicule. Maintenant, si on doit le libérer ou, je sais pas, le pardonner, bon, le pardon, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il doit être sanctionné. Le pardon ne suffit pas.
C'est ce mardi que Almadi Alfaki sera situé sur son sort au cours d'une audience qui ne dépassera pas 2 heures de temps selon un communiqué de la CPI. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Rendons-nous à présent au Burundi où la rentrée scolaire 2016-2017 a eu lieu. L'objectif cette année est d'améliorer la qualité et les performances du système d'éducation nationale avec la création de certaines écoles d'excellence. Mais un sujet de préoccupation majeure pour les parents, plus de 80 000 élèves du secondaire qui n'ont pas réussi leur examen national ne peuvent pas redoubler car ayant échoué à l'examen de l'école fondamentale. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu dans certaines écoles de la capitale. Voici son reportage.
10 heures à l'école primaire du bassin 2 au centre-ville de la capitale. Des enfants en uniforme kaki jouent pendant la récréation. Des parents sont au tableau d'affichage pour connaître la nouvelle classe de leurs enfants. Après la récréation, les élèves accueillent une journaliste venue s'enquérir de leurs nouvelles. La directrice de l'établissement annonce qu'une nouvelle année a débuté avec des défis importants. Régine Chimpaye.
Nous sommes prêts à accueillir un effectif d'élèves, 1262 élèves. Nous sommes prêts à les accueillir, à les mettre dans les différentes classes.
Pas de problème matériel, de bouquins.
Avec le redéploiement, on m'a pris 4 enseignants. C'est beaucoup pour moi. Il n'y aura pas de suppléant en cas de grossesse d'une enseignante. Le matériel, nous avons le bouquet d'élèves, sont insuffisants, ils sont déchirés. Français 5e, ils sont un peu usés. On peut nous donner d'autres livres de 5e, français 5e.
Cette année scolaire 2016-2017 commence avec de nombreuses réformes, comme celles relatives à la création des écoles d'excellence qui vont résorber les pénuries en cadre d'entreprises dotées de tangibles compétences. Mais plus de 80 000 élèves âgés de 13 à 17 ans qui ont échoué aux thèses de 9e et 10e année fondamentale n'ont pas où étudier, mais la ministre de l'enseignement secondaire ne revient pas en arrière. Janvier Diraïcha.
Quant à ceux qui sont en dessous de ce score de 90 points, ils pourront venir s'essayer de nouveau au concours de 2017 en qualité d'autodidacte. Mais puisqu'ils n'ont pas réussi au concours, ça veut dire que soit ils feront le métier et après aussi revenir faire le concours s'ils veulent.
Mais pour le syndicaliste Emmanuel Machandari, l'avenir de ces centaines de milliers d'enfants burundais s'annonce très sombre.
On propose que les enfants restent à la maison, quitte à ce qu'ils reviennent et repassent le concours à la fin de l'année. Ça devient pratiquement impossible. Un enfant de la 9e ou de la 10e, il est encore très petit. Il ne sait pas s'encadrer. Il ne peut passer toute une année à la maison sans rien faire et lui demander de venir passer le concours. Et nous avons déjà constaté que le taux de réussite est très bas.
Nouvelle année scolaire débute avec beaucoup de réformes, certes, mais elle se heurte également à beaucoup de réticences. Que vont faire ces enfants burundais pendant une année, s'interrogent leurs parents. Quel sera leur avenir, des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les parlements dans les démocraties émergentes en Afrique, tel était le thème d'un atelier qui a rassemblé la semaine dernière à Lomé une dizaine de chercheurs africains. Cette rencontre constitue un prélude à une étude sur le fonctionnement des assemblées nationales sur le continent. De Lomé, reportage de notre correspondante sur place, Kay Lawson.
Dans une démocratie, l'une des institutions clés est le Parlement. Quel rôle joue la Chambre des représentants dans l'enracinement de la démocratie sur le continent africain? C'est à cette question que va essayer de répondre une étude qui sera conduite dans 7 pays, à savoir le Bénin, le Botswana, le Cameroun, le Gabon, la Tanzanie, le Togo et le Zimbabwe. L'initiative émane du Centre de recherche et de sondage d'Opinocrop. Hervé Akinocho, directeur du CROP.
On a donc décidé de monter un projet et d'essayer de regarder comment les parlements dans ces différents pays fonctionnent, parce qu'il y a dans certains pays où on a deux chambres, donc on a une seule chambre, et nous allons ouvrir au fait un certain nombre d'aspects du fonctionnement des parlements, notamment en premier tout le travail de contrôle de l'action du gouvernement. Ensuite, nous allons parler de la représentativité du Parlement et nous allons également penser à les interactions entre les différents partis aux faits politiques au niveau de l'Assemblée nationale.
En matière de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale togolaise semble ne pas jouer son rôle pour l'avancée démocratique dans le pays, estime ces Togolais.
L'Assemblée nationale a deux rôles essentiels. Le premier, c'est voter la loi. Et le deuxième, c'est contrôler l'action du gouvernement. Pour le Togo, c'est le contrôle de l'action du gouvernement qui est un peu défaillant. Lorsque le contrôle de l'action du gouvernement ne se fait pas, ça ne contribue pas à l'avancée démocratique du pays.
L'Assemblée nationale togolaise, je dirais qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à l'avancée de la démocratisation dans notre pays, mais on ne sent pas les progrès. D'autant plus que l'Assemblée même est totalement disproportionnée, donc on voit que c'est la volonté d'une seule personne qui est votée là-bas.
Ce que le parti pouvoir décide, c'est ça que bon, le groupe parlementaire a voté. Que ça plaise ou déplaise à l'autre parti. Il y a un déséquilibre, donc pas d'avancée.
Sur le plan de la représentativité, l'ethnicité sera un volet important de l'étude, nous dit Dr Christian Wali-Wali, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo de Libreville et secrétaire du Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives.
Selon qu'on soit au Botswana, que l'on soit au Gabon ou au Cameroun, l'impact de ce que peut, par exemple, représenter l'ethnie n'est pas la même. Il y a la question du vote ethnique qu'il faut débattre. Il faut aller regarder, est-ce que ce vote ethnique conduit justement à la composition des parlements? Est-ce quelle est l'influence que peut avoir justement ce vote ethnique dans, par exemple, les amendements, des projets, des propositions de loi qu'il peut avoir au sein des parlements?
L'étude qui sera menée va entre autres confirmer ou infirmer des assertions comme la démocratie dans les pays anglo-saxons d'Afrique est plus avancée que dans les pays francophones. Stéphane Mouembela, chercheur tanzanien au Policy Research for Development. Il est difficile d'affirmer que la démocratie dans les pays anglo-saxons d'Afrique est plus avancée que dans les pays francophones, sans données scientifiques. En tant que chercheur, je le prendrai comme une hypothèse. Le Bénin n'est pas un pays anglo-saxon, mais est une grande nation en matière de démocratie. C'est vrai que les pays africains ont hérité du système de gouvernance de leur pays colonisateur, mais l'avancée démocratique d'un pays dépend en priorité de la politique qu'il applique.
It depends on the particular country.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Timothée Denangmaï et à Arnold Godson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.